Ça y est, tu enregistres là?
Bonjour. C'est une légende que Germaine, doyenne du village d'Anavavé, aime raconter. Une anguille femelle de Fatouiva s'ennuyait. Elle partit chercher l'autre anguille, Koé Nui, sur l'île de Nukuiva. La première demanda « Qu'est-ce que tu manges ?» Koé Nui répondit « De la boue dans la rivière. Et toi ?» Koé Iti répondit « Moi, des fleurs parfumées, du pandanus, du langlang, du jasmin. » Alors, l'anguille de Nukuiva décida de suivre celle de Fatouiva. Une fois arrivée sur l'île la plus au sud des Marquises, le passage était étroit et Koé Nui resta coincée dans les rochers, empêchant l'eau de s'écouler. Quand les habitants de Anavavé s'aperçurent qu'il n'y avait plus d'eau, les villageois tuèrent l'anguille. Ils l'emmenèrent pour la mettre dans un grand four et nourrir tout le village. Depuis cette histoire, il y a un conflit entre Nukuiva et Fatouiva. C'est à bord du cargo Aranui que l'équipe de France Culture a entrepris le voyage vers l'île la plus isolée de l'archipel le plus isolé de la planète. Nous mettons le cap sur Fatouiva.
Fenua Enata, terre des hommes. Une grande traversée vers les îles Marquises à bord du cargo Aranui 3 par Jean-Paul Taillardas et François Test.
Vérification de la porte proposée.
Il est Fenua Enata. Terre des hommes. Enfin, on a deux trucs pour dire bonjour. Manque de peau et K.O.
Aujourd'hui, Fatouiva, la marquise des marquises.
Mesdames et messieurs Kaohanui, bienvenue à Fatouiva dans la baie de Omoa. Dans 5 minutes sera la première barge pour descendre à terre. Pour tous les marcheurs, n'oubliez pas de récupérer un encas et un litre d'eau à la réception avant de débarquer. Merci.
Fatouiva. Terre inaccessible, forteresse imprenable, île enracinée plus loin que loin, où le temps semble passer plus lentement qu'ailleurs, suspendue entre deux passages du cargo. Fatouiva, ou Tore Heyerdahl, vécu dans les années 30, un éphémère retour à la vie sauvage. Fatouiva, ultime conservatoire de l'archipel du Tiki, celui dont les richesses naturelles survivront en raison de son éloignement. Fatouiva, île envoûtante qui se dresse soudain dans l'horizon désert de l'immensité du Pacifique. Près de 1500 mètres de falaises qui tombent à pic dans les vagues. Au lever du jour, c'est un choc sensuel, vertigineux, démesuré, émotionnel, esthétique. La nature, elle est abrupte. L'exagération volcanique, l'impression de frôler la création du monde, de se confronter à une immensité biblique, d'affronter des éléments indomptables. Fatouiva. Nombre des voyageurs de l'Aranui attendaient cette escale. En particulier, pour arpenter un parcours initiatique, épuisant, mais qui décape le regard et l'esprit. 16 km à pied, jusqu'à 700 mètres d'altitude, dans la chaleur subtropicale, à travers des paysages primitifs de manguiers, de fougères, de bananiers, de citronniers, et surtout d'arbres et végétaux qui tricotent une imprenable forêt. Mais avant, c'est par barge que l'on gagne la terre ferme, et comme la mer est agitée, ce qui est souvent le cas ici, elle nous offre de rafraîchissants embruns. Et sur le quai, c'est peu dire que l'Aranui est attendu.
Roberto,
bonjour Roberto.
Bonjour.
Vous allez être notre guide?
Oui.
Vous allez nous faire traverser l'île. L'île.
Ouais.
Une partie de l'île.
Une partie de l'île,
la curiosité ouais. Est que cette île est
voilà.
Très peu, enfin, peuplée juste sur un point du territoire et que le reste de l'île est apparemment.
Voilà, donc c'est la partie ouest donc, qui est habitée, bien sûr, comme les phénomènes naturels dominants, donc c'est d'est. La côte est donc, n'est plus habitée, donc, entre autres, donc, avec, à cause de ce problème, bien sûr, donc, de partie calme. Qui est à l'ouest de l'île.
Qui est à l'abri du vent.
À l'abri du vent, et même du courant aussi. Donc les phénomènes là.
Vous habitez, il y a combien de villages ici?
Donc il y a deux villages. Il y a le village principal, donc c'est Omoa, Et deuxième village qui est, on a le même nombre d'habitants, hein, il faut compter environ donc un peu plus de 600 habitants sur l'île. Donc voilà, 300 sur Omoa et 300, donc la moitié, l'autre moitié sur Hanawabe. Alors, il y a une seule route traversière, qu'on dit, qui part de Omoa sur Hanawabe. Et au centre, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le carrefour. Donc, c'est un grand mot.
Le carrefour
de Fatou Hiva, qui distribue, bien sûr, donc qui part vers l'est, vers la vallée de Ouya, puis dans les autres vallées. Donc, c'est le carrefour. Nous, localement, on l'appelle Maratina ou Manatina. Voilà.
Et c'est cette route que nous allons emprunter, qui traverse des paysages qu'on nous annonce d'une stupéfiante beauté, nous allons le voir.
Bien sûr.
Et qui monte jusqu'à quelle altitude ?
Alors, jusqu'à une altitude entre 800 et 900, à savoir que les points culminants de Fatou Hiva, le point culminant qui est le Touwa Ouho, qui se trouve à un petit peu plus de 1100 mètres, voilà, 1100 mètres.
Et qui monte de façon très raide. Quand on arrive dans la baie de Fatou Hiva, on est extrêmement étonné par la dimension des falaises, la pique qui domine la baie sur laquelle nous sommes arrivés. Quelle est l'origine de la roche qui constitue Fatou Hiva ?
C'est une île volcanique. Les géologues, ils adorent la Polynésie. Pourquoi ? C'est de par la diversité donc, de ces îles qui font qu'on a des jeunes îles comme les Marquises, les îles moyennes qui sont la Société avec une barrière corallienne, et bien sûr des vieilles îles qui sont les atolls. Donc, qui ont perdu par érosion donc, les montagnes et tout ça qui a fait donc, les atolls donc, des Tuamotu. Alors, les Marquises, ce sont les plus jeunes îles, logiquement, de la Polynésie. Point de vue archipel, il y a 5 archipels. Et donc, en allant plus précisément, les plus vieilles se trouvant au nord et que les naissances d'îles descendaient vers le sud. Donc, Fatou Hiva est la plus jeune des îles, qui est la plus au sud, la plus méridionale.
Si vous voulez, Roberto, nous allons reprendre la route vers le village.
Il n'y a pas de souci, on y va, on est parti.
Lionel Gouverneur, vous êtes le photographe professionnel des Marquises. Vous connaissez bien chaque île. Que vous inspire Fatou Hiva ?
Fatou Hiva, c'est un peu les Marquises des Marquises. C'est-à-dire, on est au bout du monde. C'est l'île là, qui se mérite le plus. Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'hélico hein, pour y aller. C'est vraiment... un peu la caricature des Marquises, la caractéristique des Marquises, c'est ces falaises qui tombent dans l'océan. Et effectivement, à Fatou Hiva, qu'est-ce qu'on voit quand on arrive sur cette île ? Tout de suite, c'est des falaises verdoyantes qui plongent dans l'océan au milieu de nulle part.
Alors nous arrivons ici dans le village principal de l'île, qui est aussi le chef-lieu. On n'a évidemment pas l'impression de se trouver dans une ville, puisque nous sommes au milieu de la verdure. Où que nous nous trouvions, il y a des arbres, une végétation luxuriante, la montagne en fond, pas d'embouteillage évidemment, et aucune maison.
La civilisation est arrivée tellement vite qu'elle n'a pas encore eu le temps de détruire les bonnes choses, la verdure, les arbres et tout ça. C'est l'île la plus arrosée. Et toute cette présence de cette verdure qu'on voit, ce bouquet garni quand on vient en bateau et qu'on voit au loin. Et voilà, on vit avec les plantes, la nature est très présente. Nous venons d'entendre donc ce qu'on appelle ici localement le hahi. Le hahi, le mavé, c'est un cri de bienvenue pour annoncer donc aux étrangers ce qu'on appelle localement le manihi. Voilà, mavé mai, c'est bienvenue, bienvenue à vous. Tout ça, bien sûr, accompagné d'un savoir-faire, d'un savoir récité depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, qui est toujours pratiqué sur Fatou Hiva par certaines mamans, certaines dames. C'est plutôt les dames qui font le mavé. Moi, je trouve que c'est plus sympa, bien sûr. Je pense que c'est aux Marquises, en tout cas ce que je connais sur Fatou Hiva, ce geste d'accueil est un geste banal,
chez nous, qui fait partie de la coutume, de la culture de notre île. Voilà.
Manihi, manihi, manihi. Fatoui, vai, fatoui, vai, fatoui, vai, fatoui. Uat maui, vai, wahai, pato na to, fatoui. E manihi.
C'est un bruit caractéristique qui s'entend de loin au fur et à mesure que l'on s'avance vers les premières maisons du village d'Omoa. Celui des maillets, dont les femmes se servent pour fabriquer le tapa. Elles sont les dernières de la Polynésie française à garder intacte cette tradition que l'importation des cotonnades a éteinte partout ailleurs. Le tapa, c'est l'aubier du manguier, du banyan, du mûrier ou de l'arbre à pin, qui à force d'être aplati pendant des heures, deviendra un véritable tissu végétal à la fois léger et solide. Rien n'a changé depuis la nuit des temps pour le confectionner. Un aubier de 20 cm sur 40 deviendra ainsi une pièce d'étoffe d'un mètre carré. Aujourd'hui, le tapa n'est plus utilisé que pour confectionner les vêtements traditionnels pour des manifestations comme le Festival des Marquises. Mais il sert aussi de parchemin pour les artistes locaux.
Je vous présente Richard Vaki, qui est le gardien municipal de Fatouiva, la PJA de Lille. Voilà.
Oui, qu'est-ce que vous voulez me voir?
Êtes-vous le seul policier de Lille?
Oui, pour le moment.
En quoi consiste votre travail ici?
Ah, c'est un peu comme partout. Hein. Ici, il n'y a pas de délinquance. Je te signale, il n'y en a pas de délinquance. Mais autre chose, c'est l'alcool. Ça, on a fait des dégâts par moment, dans les périodes de fête. Autrement, je fais aussi la circulation, la sécurité routière. Et la rentrée des classes, quand il y a des jours de classe.
Bon. Mais vous devez vous sentir un peu seul quand même, unique policier de sur temps une île, même
temps,
si vous connaissez tout le monde.
De temps en temps, quand il y a des appels le soir, quand je vais, c'est intervention le soir tout seul.
Ça vous arrive de verbaliser quelqu'un?
Souvent.
Et c'est forcément votre cousin, votre ami, votre
bien copain. Sûr, je ne choisis pas, cousin ou neveu.
C'est passé.
Roberto.
Il a encore
verbalisé.
Oui, donc il faut savoir que c'est jamais plaisant quand ça tombe sur soi, donc une verbalisation. Mais il faut savoir que Richard Vaki, qui est le Moutoi, localement appelé,
le Moutoi.
C'est l'agent de police. Il a été appelé plusieurs fois, et même la mairie, je le sais, depuis la sortie d'un arrêté pour gérer les chiens errants, les animaux domestiques qui sont en divagation. Et moi, je suis passé, donc j'avais un chien qui a divagué. Et donc, j'ai été verbalisé. C'est jamais plaisant, j'étais pas content du tout. Mais bon, ça a servi de leçon pour tout le monde. Et maintenant, Fatouiva, ben, vous voyez aucun chien. Aucun animal en divagation. Et je suis sûr que vous allez voir dans les autres îles que ce n'est pas la même chose. Fatouiva est un exemple.
Mais l'orchestre qui est là, on a l'impression que tout est spontané, mais l'orchestre, est-ce que l'orchestre qui est là est payé pour accueillir le touriste?
Tout ça donc, est géré par le comité touristique pour mettre en œuvre, bien sûr, donc pour mobiliser certaines personnes.
Comment s'organisent les transports ici? On voit beaucoup de 4x4. Chacun est obligé d'avoir le sien s'il veut se déplacer. Il n'y a pas de système de taxi ou cela existe-t-il?
Non, il n'y a pas de taxi. C'est, bon, quand on dit que tout le monde a un 4x4, c'est peut-être trop dire, mais ceux qui peuvent, ils achètent donc un 4x4 plutôt qu'un Fiat, par exemple. Bien sûr, ici, il faut que ce soit des véhicules tout-terrain.
Alors voilà, nous avons fait à peu près quoi, 1,5 km?
Ouais.
En roulant prudemment. Et nous arrivons chez Lionel, qui est la pension agréée de l'île. Bonjour Lionel.
Oui, bonjour.
À votre teint, je présume que vous n'êtes pas d'ici.
Non, je suis de la Normandie.
Donc votre peau est adaptée, parfaitement adaptée au soleil, avec quelques rougeurs.
Oui, oui. comme le papa.
Voilà, normal. Nous sommes au seuil de votre pension. Ouais. Il y a ici au fond une rivière qui coule.
Voilà.
Et vous avez aménagé un très beau jardin.
Voilà, on peut le visiter.
Vers lequel, bien sûr, nous pouvons nous diriger.
Voilà. Lorsque j'ai acheté ce terrain, il y avait la brousse plus haute que moi. Il y avait des grands arbres, des grands manguiers, des cocotiers. Donc il a fallu que je coupe tout ça.
Qu'avez-vous choisi de planter, nous?
Voilà, ben.
Je vous suis vers le fond du jardin.
Là, j'ai un palmier dattier.
Oui.
Ici, à notre droite, c'est avocat, pamplemoussier, citronnier. Ça, c'est un arbre, on appelle ça le roku. Et on utilise, il y a les...
Bon, c'est un petit arbre, hein,
voilà.
avec quelques fruits ou fleurs qu'on a du mal à...
Voilà.
Ce sont des petites boules rouges.
Oui, et ensuite, ça forme des coques.
Oui.
Et dedans, il y a des graines qui ont une poudre rouge.
Oui.
Et cette poudre-là, ça servait pour les anciens de se mettre sur eux. Et c'était un anti-moustique. Dans l'alimentaire, il s'en servent pour faire le colorant. Et c'est reconnu, le roku. Ça, c'est une fleur, c'est un ylang-ylang.
D'accord. Alors lui, qui sert à la parfumerie, qui est un arbre de parfumerie.
Voilà, et un fixateur.
Kaohanui, bienvenue chez vous, au Marquise.
Oui, oui.
Et je me présente Piritu à Julie, mariée à deux fois, et 6 enfants. Moi, je fais du monoï. Ça, c'est du monoï fait maison. Celui-là, c'est tout à la base de l'écorce du Tahiti. C'est une plante qui ressemble à un roseau de la rivière. Vous pouvez sentir. Et vous voyez tout ce qui est dedans, c'est le vétiver. Et ça guérit aussi le sinusite à la base de ce truc-là.
Vous avez un nom, je pense qu'il y a au Marquis un autre nom pour le monoï.
Pani Apau.
Parce que monoï, c'est un mot tahitien.
Oui.
Et c'est une vieille tradition, c'est quelque chose qui vient de très très loin. Comment avez-vous appris à fabriquer le monoï?
Ah, merci. Merci, je vous remercie beaucoup de m'avoir demandé. C'est à toi, à moi, ma grand-mère, et qui venait, mon papa et ma maman aujourd'hui qui vit toujours. Je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle m'a donné. Aujourd'hui, je donne aussi mon savoir-faire à ceux qui veulent. Pour avoir ça, je ramasse toutes mes plantes médicinales, j'écrase tout, l'écorce du thym, l'écorce du miro, l'écorce de ahia, kia, kariri, mahimahi, vayano. Je mets tout, j'écrase tout et j'enlève le jus. Et ce qui reste, je mets à étaler au soleil. Quand j'ai fini de râper mon coco, comment on dit ça?
Vous les saurez?
Je saurai le jus. Je mets dans un plat à l'eau. Après, je ramasse tout ce que j'ai séché au soleil. Et je mets trempé dedans. Et je mets au soleil. Pendant, s'il fait beau, 3 ou 4 jours. Et l'huile coule tout doucement. Ça, c'est pour les cheveux. Fait pousser les cheveux des fillettes. J'ai une petite fille qui a des longs cheveux à 18 ans maintenant. Elle a des longs cheveux.
Celui-ci qui est le plus transparent et le plus clair.
Celui-là, c'est le panikeka.
Oui.
Panikeka, c'est pour le parfum. pour mettre sur la plein soleil.
Est-ce que le monoï est un produit miracle qui peut répondre à beaucoup de problèmes?
Moi, je crois à ce que je fais. Je suis seulement un instrument et à partager avec ceux qui veulent. Mais je crois à celui qui m'a créé, il m'a donné ce don. Je vais dans mon jardin. Tous mes plants que j'ai plantés, je parle avec eux. Je vais couper une branche. Je demande quelle branche. C'est incroyable, mais vrai. Ce que j'ai, c'est un don que j'ai reçu de Dieu.
Avec le téléphone! Avec le téléphone!
J'avais tout oublié.
Il y a une autre.
J'avais tout oublié chez Lionel. Faut-il y voir un présage? Non, mais faut-il y voir un présage?
Quand on oublie, on passe à un endroit et qu'on oublie quelque chose, eh ben, c'est pas perdu. Parce que c'est un signe. Ici, on dit Po'ayehua. Localement, Po'ayehua, ça veut dire. À demain, tu reviendras.
C'est une très bonne nouvelle, donc j'avais oublié mon téléphone, mon carnet, toutes mes notes.
Si tu veux.
Je vais revenir à Fatou Iva.
Tout à fait.
Donc, alors, nous reprenons la route.
Voilà, nous reprenons la route. Donc là, le carrefour du centre administratif de Omoa.
Oui, pas de feu, pas de stop. Hein.
Non, pas de stop. Donc, priorité à droite, logiquement. On évite d'écraser quelqu'un au passage. Et donc, on va voir l'infirmière qui va pouvoir nous expliquer son métier.
Il n'y a qu'elle pour vous soigner sur toute l'île, en dehors évidemment de quelques personnes qui s'y connaissent pour guérir les petits bobos.
Il y a une deuxième donc, qui est l'adjointe de soins donc, du village de Hanavavé. Et on a aussi recours, bien sûr, à l'ancienne infirmière si jamais il y a besoin. Donc, elle est là. On s'entraide, c'est une grande famille Fatou Iva, donc voilà, on s'entraide beaucoup. On va aller la voir, elle s'appelle Lélia Touyéni, elle nous attend.
Bonjour.
Bonjour.
Lélia, donc ça fait depuis janvier que je suis là, et je suis originaire de l'île. Je suis née ici, j'ai fait mes études sur Ivawa. Jusqu'au collège et puis sur Papeete et puis voilà, je suis de retour ici. J'ai fait 4 ans comme itinérante, le pôle itinérante est plus sur les astrales, les Tuamotu et les marquises. Donc ça consiste à remplacer des infirmiers qui partent, qui sont en congé, voilà, en arrêt maladie, des choses comme ça. Donc on nous appelle, on est sur Papeete. Et on nous appelle pour faire des missions de remplacement. Parce qu'en fait, beaucoup d'îles de poste sont isolées. Il n'y a pas de médecin. Donc, en fait, il y a un médecin, mais sauf que tu les as par téléphone. On a une structure qui est chapeautée par un médecin référent. Donc, sur les marquises sud, eh ben, c'est Hiva'oa. Donc, voilà. Donc, qui nous donne leur point de vue par téléphone.
C'est une drôle de responsabilité quand même que vous avez, puisque vous êtes sur la terre française la plus isolée qui soit, à plusieurs heures de bateau. Comment cette responsabilité pèse-t-elle sur vos épaules ?
Stressant. C'est très pesant. C'est très pesant. C'est très formateur, mais c'est très stressant. Quand c'est cardiaque, j'ai pas souvent le matériel qu'il faut. On me dit souvent de passer tel produit, de techniquer de cette façon-là. Et souvent, je dis, je manque de moyens. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc, on fait avec les moyens du bord. Et souvent, c'est un peu à l'arrache qu'on fait partir la personne. Hein. Et souvent, les trajets qui se font entre, quand c'est un transport médicalisé, ici, c'est pas médicalisé. C'est la famille qui part avec. C'est quand on se déplace, à ce moment-là, Fatou Iva se retrouve sans soignant, quoi.
Il y a quand même de temps en temps des médecins qui passent. Quelle est la fréquence de visite des médecins et des spécialistes?
En fait, les spécialistes du CHPF, la santé publique font appel à eux pour des missions à faire 2 fois dans l'année. Donc le cardiologue, l'endocrinologue, l'ophtalmo.
Il y a le souci de l'accouchement et encore plus à Fatouiva. Mmh. Comment cela se passe-t-il pour le suivi de la jeune maman? Et ensuite, comment organisez-vous le pré-accouchement, l'accouchement et le post-accouchement?
Les femmes doivent se déplacer sur Hivawa. Il a été déjà demandé que le gynéco puisse descendre, lui, quand même pour...
Bah oui, parce qu'au sixième mois, prendre un bonitier, un petit bateau de pêche, ouais, être secoué pendant 3, 4, 5, 6 heures, on peut considérer que ce n'est pas l'idéal.
Oui.
Et c'est ce qui d'accord. se passe pourtant.
Oui, oui. Elles sont envoyées, elles partent sur Papeete vers les 7 mois. Ils attendent jusqu'à l'accouchement et même jusqu'après l'accouchement.
On a parlé de l'accouchement et pour quelque chose d'aussi banal que les analyses médicales, puisque certaines personnes ont besoin d'un suivi, comment cela se passe-t-il?
On attend qu'il y ait une occasion des bassins pour faire partir les tubes, quoi. Donc on prélève, on prévient les gens, ben tel jour il y a une occasion des bassins, évacuation sanitaire sur la Tourna. On sait que ben voilà, il faut qu'on va faire la prise de sang tel jour pour telle personne, voilà.
Par votre fonction, vous êtes la personne qui est appelée à connaître toutes les familles de cette île, forcément, sans exception. Il y a derrière beaucoup de dossiers, il ne s'agit pas de les trahir, mais est-ce qu'il y a sur cette île une pathologie récurrente?
Oui, liée à l'alimentation, hein, donc voilà, les problèmes de diabète et ses conséquences, voilà, les problèmes de gouttes, et voilà, quoi, tout ça lié à l'alimentation, effectivement. Par rapport à plusieurs années, ben, quand je demande aux anciens, à mes parents, ils disent que ben, à l'époque, quand ils étaient plus jeunes, parler de diabète, de crise de goût, des choses comme ça, on n'entendait pas à l'époque. Ça, c'était très très rare. Et mais maintenant, c'est récurrent. Mais parce qu'en fait, on a une alimentation très riche, très protéinée, hein, donc en viande, le cochon, chèvre et tout ça. Et on mange vraiment, tu vois, en quantité, et très peu basée sur les légumes, quoi, sur les légumes et des choses comme ça. Bon, voilà.
Écoutez, merci, on vous laisse travailler. Quel est votre prochain rendez-vous?
Oui, là, j'attends encore qu'il y a des gens qui doivent venir encore passer pour des consultations. Je suis ouverte jusqu'à midi et demi pour un repas, et puis dans l'après-midi de l'administratif et tout ça. Donc, voilà. Parce qu'il y a la partie paperasse aussi qu'il faut gérer et tout. Donc.
Merci, nous vous laissons.
Oui, merci beaucoup à vous d'être passé. Et puis voilà, bon séjour. Hein.
Roberto, nous avons aperçu entre les gouttes la Ranui qui se dirige vers le port d'Anavave, l'autre port de l'île de Fatouiva. Mm-hmm. Nous dirigeons nous aussi vers Anavave, mais par un autre moyen qui est la route, l'unique route de l'île. Oui. Nous allons monter jusqu'à une altitude, nous allons dépasser les 600 mètres d'altitude. C'est donc une route quasi montagneuse que nous empruntons.
Ouais, ouais.
Et nous allons profiter pour faire quelques haltes et regarder quelques beaux paysages.
Tout à fait.
Le bateau met 20 minutes.
Oui.
À pied, cela prend entre 4 et 5 heures. Tout à fait. Voiture, combien de temps faut-il compter? Ce sont les fondrières qui suscitent mon émotion, puisque nous avons ici devant nous.
Oui, donc. Une route difficile à pratiquer. Il faut non seulement avoir une bonne voiture, mais de bons pneus. Tout terrain, parce que là ça glisse. Je vais descendre pour mettre le crabeau en route, donc on aura besoin d'utiliser vraiment tous les moyens nécessaires pour que la voiture ne cale pas.
Le crabeau, tu connais pas? Ah, c'est un terme non commun, on va lui demander, mais oui.
Alors le crabeau
oui, pour ceux qui ne savent pas.
Vient du mot crabe. Alors crabeau, eh ben, c'est pour fixer donc les moyeux à l'avant pour pouvoir passer en 4x4. On a besoin des 4 roues motrices. Là on voit qu'on est en 4 roues motrices.
logiquement, on risque rien et on doit passer.
Mais cette île est quand même est une île très pluvieuse. Nous en avons la démonstration aujourd'hui. Comment se fait-il que nous nous trouvions sur la route principale de l'île et que cette route est une route boueuse?
C'est le rôle du pays. De devoir nous bétonner cette piste, ils ont déjà commencé à bétonner de part et d'autre, donc au moins nous venons de voir une petite partie, et à partir de là le pays a le projet de continuer le bétonnage sur encore 1,5 km. On va dire que c'est insuffisant, mais ils vont quand même devoir continuer jusqu'au bout. On a besoin de cette route.
Roberto, pour vous, le mot pays est un mot naturel. Qu'entendez-vous par le mot pays?
Alors, c'est un nouveau mot parce que avant, la Polynésie était considérée comme un territoire d'outre-mer et maintenant il est rentré dans le statut de pomme, pays d'outre-mer.
Et ce pays a des compétences et en particulier celle des routes.
Voilà, des compétences et des obligations, entre autres les routes. Comme on parlait tantôt aussi, donc des moyens de déplacement interinsulaire entre les îles, c'est de compétences pays, c'est de compétences du territoire qui est géré à Tahiti pour la Polynésie.
Alors, sachant ce que l'on sait de métropole, des gouvernements qui se succèdent à la tête du territoire,
oui.
on a un peu tendance à se demander comment sont effectués les choix et est-ce qu'ils ne sont pas dictés par des considérations plus politiques ou claniques qu'économiques?
Je ne vais pas vous cacher que la politique a toujours été là depuis que l'homme est là. Et donc, je ne vous cache pas que si on est du même parti politique que le gouvernement, on est bien servi. Et sinon, on n'est pas servi du tout.
Et c'est-à-dire que Fatou Iva n'est pas du bon côté?
Je vais dire qu'il y a eu des périodes. Il y a eu des périodes où il était du bon côté. Je dirais plus que Fatou Iva n'a pas assez d'électeurs pour pouvoir influencer et motiver les politiques. Donc il y a eu plusieurs passages des différents partis politiques. Il y a eu beaucoup de promesses. Il y a eu entre autres donc beaucoup de projets d'altiport sur Fatou Iva qui aurait pu être un moyen de pouvoir nous sortir de cet isolement de cette île. Mais l'aéroport n'a pas encore vu le jour. Et donc personnellement, j'espère qu'on ne verra jamais le jour de cet altiport, parce que moi, je tiens à cet isolement de mon île. Mais on ne peut pas aussi continuer à rester comme ça. Il faut quand même penser à la santé des gens qui y habitent. Et il y a quand même de bonnes choses avec un aéroport.
Lionel Gouverneur, vous êtes le photographe professionnel des Marquises, vous connaissez bien chaque île. Il y a une piste qui dessert les deux points principaux de Fatou Iva. Je suppose que vous l'avez emprunté à pied, vous l'avez emprunté en 4x4. Que vous inspire cette route?
Alors je dirais que ça dépend de la météo. Parce que cette route, effectivement, c'est une piste pour la plus grande partie, donc on n'a pas le même plaisir à la faire quand il pleut, il peut pleuvoir très fort, que quand il fait beau. Donc on a très rapidement les pieds dans la boue et puis la tête dans les nuages, donc visuellement c'est plus limité. Mais en même temps c'est un véritable délice quand il y a certaines configurations de nuages qui courent sur la montagne, quand on arrive comme ça au-dessus de la baie de Omoa ou au-dessus de la baie de Hanavave, qu'on voit ces nuages et ces grains de pluie. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Évidemment, par beau temps, c'est plus facile. Et puis, on prend peut-être plus conscience du côté montagnard. Les Marquises, qu'est-ce que c'est? C'est des montagnes qui surnagent au-dessus de l'océan à 500, 1000 mètres d'altitude. Mais il ne faut pas oublier que ça repose sur 5000 mètres ou 4000 mètres de fond. C'est des montagnes qui sont plus hautes que le Mont Blanc. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant, même si ça n'a pas l'air comme ça. Sachant qu'on peut très vite décompter tombe la piste, être au milieu de nulle part, quoi. Il y a une petite vallée qui s'appelle Ouia, c'est la vallée où a résidé notamment Thor Heyerdahl. Donc effectivement, cette vallée, il y a un petit chemin qui y mène, et voilà, on rentre, on change d'époque, quoi, quand on y va. Après, il faut se dire que les Marquises, En général, c'est quelque chose qui se mérite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des chemins très dégagés, très bien entretenus, donc il ne faut pas avoir peur de marcher. Il fait souvent plus de 30 degrés, il fait chaud, humide, donc il faut avoir un petit peu de conditions, mais ça vaut le coup, quoi.
Roberto, nous sommes toujours sur cette route de Anavavé. Le vent s'est levé, il vient de pleuvoir, le paysage est magnifique. Quelles sont les montagnes que nous avons en face de nous ?
Alors, nous sommes sur la piste de l'endroit appelé Papaoa. C'est un endroit spécifique parce que c'est un endroit où se préparait la bataille d'un ancien peuple qui venait de Hanavavé pour chasser le peuple appelé Tiou de Omoa. Donc, ils se sont arrêtés ici pour préparer donc, les outils et les techniques donc, qu'ils allaient utiliser pour chasser le peuple Tiou, qui était quand même un grand peuple, le plus grand peuple même de Fatouiva, de Omoa. Et donc, le peuple qui arrivait, c'était le peuple Anaïnois, dont je fais partie maintenant. C'est le dernier peuple de Omoa. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils avaient une certaine technique. Donc, il fallait faire du bruit, il fallait trouver vraiment des techniques pour les chasser. Ils ont réussi sans utiliser aucun outil. C'était uniquement avec des cris, ils ont impressionné, ils ont même utilisé des cocotiers pour faire des catapultes, pour chasser donc les gens de Omoa. Ils sont partis vers la pointe sud, puis ils sont partis. Ils se retrouvaient donc à Rapa Nui, au Tuamotu, et même à Hivawa, le peuple Tiou de Hivawa. Donc on retrouve un petit peu partout dans la Polynésie, donc le peuple de Tiou qui est parti. Et le peuple de Anaïnoa est arrivé à Omoa, s'installer. Ils ont trouvé un dernier habitant donc, du peuple Tiou, qui était un guérisseur, on appelle un Tautau, donc du lieu. C'est une personne âgée, sage, donc qui a dit au chef du peuple Anaïnoa qui venait d'arriver sur Omoa, si vous voulez être le dernier peuple à habiter Omoa, eh ben vous devrez me tuer. Vous devrez m'enterrer donc vivant, la tête dans le sol et les pieds en l'air. Ce sera une façon de dire que vous êtes le dernier peuple à habiter au moins. Voilà un peu l'histoire du lieu. C'est un lieu où on apprécie beaucoup quand on arrive ici. Il y a un petit fond plat, il y a la nature, le vent, donc on sent ces odeurs, toutes ces plantes qui sont là, donc des manguiers, des ilang-ilang, des pandanus, donc il y a les fleurs de pandanus. Donc tout ça mélangé, ça fait un parfum naturel. C'est aussi un endroit de Fatouiva où vivait un dernier couple du monarque de Fatouiva. Alors, appelé le Omaokeke, c'est un oiseau qui est en voie de disparition, qui est sévèrement menacé par le rat noir, les chats et bien sûr les hommes. C'est une espèce mondialement connue pour être parmi les 7 oiseaux les plus menacés au monde.
Il n'en reste que quelques-uns ici.
Il n'en reste que quelques-uns ici. On compte à peu près 8 couples, dont 5 en reproduction. Cet oiseau est endémique. Cet oiseau est une représentation de l'île. C'est un oiseau qui présente un cri comme un miaulement de chat. Et au fait, quand tu te trouves dans la nature, cet oiseau te parle et arrive même à prononcer ton nom. Je vais citer un exemple de ce cri-là que je connaissais bien, qu'on a commencé à perdre parce que nos enfants, ils ne connaissent plus ça. Moi, mon prénom marquisien, il s'appelle Thierry. Alors, je vais dans la nature, ben, un monarque qui passe au-dessus, qui prononce mon nom. Thierry! Thierry! Alors, c'est un peu ce cri-là qui fait que cet oiseau est vraiment magnifique. Donc, on se doit maintenant de le sauver. On est en train de gérer tout ça.
Roberto, vous venez d'évoquer le monarque de Fatouiva. Il y a évidemment d'autres espèces qui vivent sur cette île, mais curieusement, on a l'impression qu'il n'y a pas d'animaux venimeux, dangereux, qu'il n'y a pas de serpents, qu'il n'y a pas de reptiles dont il faut se méfier. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité ?
C'est une confirmation, c'est une réalité. On n'a pas de serpents ni d'espèces. On a le scolopendre, donc le sans-pieds.
donc qui peut faire mal, même très mal, mais sans plus, on ne peut pas mourir donc du venin d'un sans-pied. Notre isolement fait que on n'a pas encore ces espèces-là, et je souhaite qu'il n'y en ait pas pour longtemps.
Fatouiva, qui est la dernière, la plus récente des îles sur laquelle on va faire la grande marche, on a quelquefois vraiment l'impression, en marchant, d'être au milieu du décor de Jurassic Park. Et on serait pas très étonné de voir arriver, je sais pas quel animal préhistorique. Il y en a pas, il y a pas de nuisant. Mais c'est un endroit particulier quand on arrive sur Anavavé avec ces falaises noires qui sont très resserrées. Alors moi qui suis médecin, j'y vois aussi des choses négatives, c'est-à-dire le côté très 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 refermé, la consanguinité, donc certaines maladies génétiques qu'on voit chez les enfants, c'est une vie dure. Et ils ne voient jamais le médecin non plus. C'est pas facile. Et c'est vrai qu'ils ne se plaindront pas, qu'ils vont vous... Alors, de temps en temps, moi, ils me demandent des médicaments, ne serait-ce que pour le mal de dents, pour des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas plus de dentistes que de médecins. Donc, c'est des gens très attachants.
Fatouiva a été évidemment connu grâce à l'aventurier norvégien Thore Heyerdahl, qui est arrivé à Fatouiva en 1937. Il avait fait le choix de venir à Fatouiva parce qu'il voulait fuir, il pensait qu'il y aurait un conflit en Europe, il voulait fuir ce conflit avec sa jeune épouse norvégienne. Ils sont arrivés dès 1937 à essayer de tenter une aventure dans la nature. Et cette aventure d'homme-nature, comme il disait à l'époque, consistait à vivre avec le minimum d'objets, à construire sa maison comme les natifs, donc avec des palmes, des feuilles de cocotier, des bambous, et à collecter des racines de manioc ou manger des bananes pour survivre. Donc tout s'est très très bien passé au début. Ils ont eu un très bon contact avec les Marquisiens qui les ont aidés, qui leur ont appris comment survivre dans la nature. Mais c'est pas si facile que ça quand est arrivée la saison des pluies. Les pluies, Fatouiva, c'est l'île la plus verte, donc celle où il pleut le plus de tout l'archipel des Marquises. Et quand les pluies se sont multipliées et que l'humidité stagnante a provoqué la multiplication des moustiques et des infections, évidemment, Thore Heyerdahl et son épouse ont commencé à avoir des moments difficiles. Et les choses ont empiré quand Thore Heyerdahl, qui faisait des fouilles archéologiques pour les directeurs de musées et autres, qui lui avaient demandé de ramener des crânes, eh bien, quand ils ont découvert des crânes qu'ils mettaient de côté pour ramener, les populations marquisiennes l'ont mal pris, parce que pour eux, récolter le crâne d'un ancêtre, c'était un viol, puisqu'on s'appropriait le mana, l'énergie d'un ancêtre à eux. Donc, sans doute à la suite de quelques beuveries d'alcool marquisien prélatées, ils ont essayé de lyncher Thore Heyerdahl qui s'est enfui, qui s'est caché dans la montagne, dans une grotte, attendant un bateau pour le ramener à Tahiti et puis en Norvège. Mais il a tout de même écrit un livre magnifique qui s'appelle Fatouiva, où il raconte très très bien son aventure dans cette île perdue.
On ne réécrit pas l'histoire, mais est-ce qu'il aurait pu mener son expérience plus longtemps s'il n'avait pas eu ses soucis avec les populations locales?
Je pense qu'il serait resté plus longtemps, surtout que son but était de passer plusieurs années, vu qu'il pressentait une guerre en Europe. Mais Thore Heyerdahl avait aussi une idéologie viking, puisque lors du Kon-Tiki en 1947, il avait appelé ce bateau Kon-Tiki du nom d'un dieu inca, et il voulait prouver, mais ça c'était un petit peu que les vikings ou que les européens avaient eu un lien avec les incas qui les auraient poussés vers le Pacifique. Tout ça c'est complètement farfelu. Mais l'idéologie dominante aryenne européenne était très forte chez Thore Heyerdahl à cette époque-là, avant-guerre. Thank you.
La traversée de l'île touche à sa fin et nous arrivons sur le village d'Anavavé que nous dominons. Et surtout, nous avons une vue imprenable sur la baie des Vierges. Il faut quand même avoir une certaine dose d'imagination, Roberto, pour deviner des vierges dans ces excroissances géologiques. Est-ce que vous en voyez ?
Non, mais au début, donc, cette vallée qui avait été découverte par des marins, donc, on nommait initialement, enfin au début, par les premiers marins qui l'ont découvert, la baie des Vierges.
En raison des formes phalliques,
ben, il faut
pour
savoir...
ne pas les nommer.
Oui, non, mais pour, il faut savoir que le marin, il est quand même grossier sur ces thèmes, donc il aime bien tout ce qui est tout ce qui tourne un petit peu, voilà, autour de tout ça. Et que après, les curés qui habitaient donc cette vallée étaient un peu embêtés de dire que voilà qu'ils habitaient dans la baie des Vierges, donc ils ont voulu. Enfin, il a voulu modifier, changer cette appellation qui est devenue la baie des Vierges, qui est pas trop mal non plus. Donc voilà. Mais pour nous, ça reste la baie de Hanavavé.
Pour nous, passagers de la Ranui, c'est un petit moment d'émotion parce que ce sont les dernières minutes que nous passons sur cette île. Mais pour vous, qui allez voir partir le cargo mixte à Ranui, qui ne va pas revenir avant 3 semaines. Quel sentiment vous habite au moment où le cargo largue les amarres ?
Je dirais qu'on a cette habitude donc, de voir ce navire arriver avec tout le ravitaillement sur l'île. Et bien sûr, on sait qu'à la fin de la journée, qu'il doit repartir. Ça reste notre bateau, la Ranui. Ça reste notre bateau qui amène tout, et qui amène des touristes, qui amène donc ce qu'il nous faut donc pour ravitailler nos petites boutiques. Mais on sait que voilà, dans 4 semaines, il sera encore de retour et on reprend encore les mêmes activités. Bon, c'est jamais la même chose, mais on a cette habitude de le voir arriver et de le revoir partir, bien sûr.
Et quand il va disparaître ce soir à l'horizon, c'est un sentiment de soulagement, une façon de se dire on se retrouve entre nous, ou au contraire, malgré tout, une petite crainte en se disant ben ça y est, nous revoilà seuls au monde.
Non, on n'a pas cette crainte de se retrouver seul au monde parce qu'on y est déjà. Non, pas du tout. C'est tout simplement une satisfaction que Aranoui est arrivé et il doit repartir. On se dit ben. Au revoir et voilà, dans 4 semaines, tu seras encore là.
Et Roberto, quand la Ranui s'éloigne, est-ce que vous aimeriez être à bord pour découvrir ou vivre sur une autre île, une autre terre ?
Oui, pourquoi pas. Donc partir en visiter d'autres lieux, d'autres îles. Mais je peux vous dire que moi qui suis d'ici, qui suis natif, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici. Je suis triste à chaque fois de quitter mon île, de devoir quitter mon île. Je ne veux pas la quitter. Je suis un amoureux de mon île et je veux vraiment pas la quitter. Je veux vivre là et garder. C'est une façon pour moi de garder la vie éternelle sur cette planète en restant dans mon paradis.
Après la danse d'adieu aux marquises dans le village de Hanavavé, nous reprenons la barge qui nous ramène à la Ranui. Le cœur se serre à l'idée de laisser ainsi, tout seul, si seul, quelques centaines de nos compatriotes derrière nous. Le cœur se serre à quitter ces paysages à peine effleurés. Mais il se réjouit aussi parce que le souvenir de cette humanité dont chaque rencontre marquisienne était entourée restera à jamais dans nos mémoires. Personne ne repart intact d'un voyage aux marquises. Merci à Didier Benatar, Lionel Gouverneur, Taoté Marie-France, Léonie Camia, Richard Vaki, Lionel Cantois, Julie Péritois, Eliena, Henrik Norman et bien sûr, notre guide et conducteur, Roberto Marraeta-Ata. Joseph Caïa, la Ranui va bientôt repartir après cette dernière escale aux îles Marquises. Quel message de la Terre des Hommes pouvons-nous, nous, passagers de la Ranui, emporter ?
Emporter avec vous, porter avec vous, amener avec vous l'hospitalité de l'archipel, l'hospitalité de chaque île. Emportez avec vous tous les parfums, les couleurs de notre archipel. Emportez avec nous l'esprit, même si c'est difficile pour vous d'attraper, de capter ça. Mais apportez tout ça, parce que les marquises resteront toujours les marquises. Emportez pour, par la suite, ramener le message que vous allez porter au travers de ce que nous venons de partager. Je pense et j'y crois. Il y aura un retour au travers d'autres personnes, d'autres émissions, d'autres visites, puisque Aranui, aujourd'hui, est notre pirogue qui vient nous rendre visite avec d'autres passagers, d'autres personnes du monde extérieur, mais qui repart également avec ces mêmes personnes, et nous croyons que ces mêmes personnes vont porter encore et encore plus cette hospitalité, la culture marquisienne, l'authenticité, et pour dire au monde extérieur que nous existons aussi au niveau de cette planète et que nous sommes toujours sur le travail de faire connaître à l'extérieur des Marquises, à l'extérieur de la Polynésie, au-delà des frontières de la France que nous aimons, l'inscription des Marquises à l'UNESCO. C'est vraiment, je dirais, la boucle, on va dire, de cette reconnaissance d'un peuple qui a vécu, qui vit toujours et qui a envie de vivre encore et encore et encore pour les temps à venir. Les Marquises aux Marquises, les Marquises dans la Polynésie, les Marquises avec la France et les Marquises au sein de la planète Terre. Merci beaucoup.
Etsé aux portes, armement des toboggans, vérification de la tente opposée. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur. Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Veuillez retirer vos écouteurs et nous accorder quelques instants d'attention.
C'est un long voyage de retour qui nous attend. Comme à l'aller, il nous faudra 3 jours de navigation dans l'immensité du Pacifique avant de retrouver Tahiti. Et près de 24 heures d'avion pour regagner la France. Un long, un très long, un si long voyage. Merci à nos partenaires, la compagnie Air Tahiti Nuit, l'agence Tahiti Tourisme, la compagnie polynésienne de transport maritime qui arme la Ranui. Merci à tous les marquisiens qui nous ont fait partager leur art du temps. Merci à tous les membres de l'équipage de la Ranui pour leur sourire, leur joie de vivre. Cette grande traversée vous était proposée par Jean-Paul Taillardas et François Test. Pour la réentendre ou la télécharger, une adresse, le site franceculture.fr sur lequel vous trouverez également des compléments de programme, des références et des informations pratiques. Et à tous ceux à qui cette série a donné envie d'entreprendre cette inoubliable croisière vers la Terre des Hommes, bon vent du Sud.
Ce documentaire est podcastable sur le site de l'heure du documentaire. La semaine prochaine, nous laisserons la place aux rencontres de Pétrarque avant d'entamer une semaine d'enquête.